Donc on s'est retrouvés à être très visibles en tant que les individus, toujours les mêmes du GAT. Et c'était pas ça vraiment. On voulait être visible qu'à la radio. Et c'est. Bah oui.
Visible à la radio.
Bah oui. C'était là où on nous entendait. Et donc c'est une vraie question de pourquoi la communauté, je veux dire, survalorise la théorie et dévalorise à ce point la pratique. Les trans ne sont pas des manuels.
Yeah. Ça dépend qui. Mais l'autre truc à aborder aussi, c'est cette question de clandestinité, parce que pendant très longtemps, nos réunions se faisaient dans des bunkers, au fond des forêts, en pleine nuit, dans des lieux secrets. Et pourquoi on arrive à un moment, à une certaine forme de visibilité qui se voulait coup de poing en même temps moi, je me souviens d'un moment où c'est l'existence 2004, où les RG demandaient mais qui est le GAT, et personne ne saura qui est le GAT, et personne ne saura qui est dans le GAT précisément. Et l'idée du GAT, c'était de ne pas être des personnes individuelles, mais d'être un groupe, comme son nom l'indique, et non pas groupe action trans, comme beaucoup l'ont pensé, mais groupe activiste trans. Il y avait ce moment où, au fur et à mesure qu'on avançait, et ça peut-être était une erreur stratégique de notre part de s'être laissé embrigader par les autres associations, de nous laisser le boulot administratif, profession. Ouais. Nous, on n'était là que pour impulser la dynamique, donc via des apps, d'être sur le terrain, de dire maintenant, allez, saisissez-vous de ça et impulsez tout ce que vous voulez en termes de revendications, mais maintenant qu'on a mis, on a renversé une forme de rapport de pouvoir, notamment avec des psys ou même la CNAM ou les ministères. C'était à vous de négocier et de tenir cette négociation sans pour autant débrider la possibilité même de lâcher prise sur ces questions-là. Et pourtant, le boulot administratif, c'est quand même nous qui le faisions. Et il y a ce moment où je me dis que ça devenait complètement incohérent de se retrouver dans les ministères avec les gens qu'on avait zappés. Et tu vois, il y a un moment où stratégiquement, ça ne va plus. On est là pour zapper et on sait que derrière, il y a une force et une masse critique qui est là pour soutenir l'action. Ce qui n'était absolument pas le cas, c'était pour rebondir justement sur ce que tu disais en parlant de moyens d'action pérennes et pratiques pour rebondir par rapport à nos actions. Maintenant, ce qu'on voit, effectivement, il y a des gens qui rebondissent sur nos actions, mais à titre individuel. Et ça, c'est tout autant contestable. C'est tout autant contestable. Après, je ne voudrais pas citer non plus, parce qu'il y a maintes et maintes exemples.
Mais je pense que la question des apps contre les psys est assez emblématique de ce fonctionnement-là. On a l'exemple du zap Bonnierval, qui n'est pas récupéré là où il devrait être récupéré. Mais on pourrait dire de la même manière du zap de Sainte-Anne en février 2005, qui est quand même, je veux dire, un zap structuré avec Act Up Paris, pour lequel on met fin à une série de 6 séminaires organisés par les psys de Sainte-Anne, et où derrière, je veux dire, il n'y a personne dans la communauté ne se dit « oui, là, on a un espace qui est ouvert ». Il faut qu'on rebondisse sur cette question de la formation, de la psychiatrisation, de la parole universitaire dans dans les ministères. On le voit aussi sur, par exemple, ce qui s'est passé avec le sida et les trans, où une porte a été ouverte, mais c'est extrêmement, enfin, encore parcellaire, je veux dire, cette récupération de l'espace revendicatif lié au sida. Et le dernier exemple, c'est clair que le zap Bonnierval, qui est un zap relativement anodin, facile à faire, pas très compliqué, je veux dire, on n'a pas suspendu l'intervention de Bonnierval, on lui a juste montré qu'on était là.
Qualifié par certaines personnes de la communauté comme un zap soft.
Soft.
Mais va aller lui casser la gueule, moi. Voilà. Moi, je dis, si tu veux du hard, vas-y, quoi.
Et pour lequel, on ne voit qu'une, on ne voit qu'une récupération théorique, je veux dire, dans le cadre de séminaires ultérieurs. Mais absolument pas, je veux dire, un placement, je veux dire, politique face à la pratique médicale de Bonnierval. Or, je veux dire, on a là, je veux dire, que ce soit sur Paris, que ce soit en Marseille, on a les seules équipes dites officielles, structurées, encore véritablement active en France, et face à ces machines-là, il y a des associations, il y a 2 associations sur Marseille, il y en a je ne sais trop combien à Paris, et il n'y a aucune association capable de mettre en place ce moyen de dire, écoutez, voilà, il s'est passé ça, ça pose un problème évident, il faut qu'on négocie ce problème-là, non, rien n'est fait, je veux dire, qu'est-ce que va faire Sainte-Anne ? Sainte-Anne va attendre tranquillement l'émission du 21 septembre, ah, le gars a disparu, donc on va pouvoir refaire un séminaire. Voilà ce qu'ils vont dire.
Et
donc,
un an plus tard.
Voilà, et dans un an, il y aura peut-être un séminaire en disant, cette fois-ci, les emmerdeurs ne sont pas là pour nous empêcher de faire notre séminaire. Et je veux dire, si demain, je veux dire, le Sainte-Anne refait un séminaire, personne ne bougera. Personne ne bougera. Et ça sera encore pire.
Bah, oui, sachant que qu'est-ce que c'était que ce séminaire, quel était le public? Le public, c'était des étudiants. C'était bien pour...
C'est des étudiants infirmiers en psychiatrie, voilà. Des étudiants en psychiatrie...
Pour leur expliquer comment ça marchait, comment les protocoles marchaient, qu'est-ce qu'était la transsexualité, c'est ça? Et en fait, c'était encore pour enfermer dans une généralité. En fait, ils étaient en train de fabriquer des futurs psy transphobes.
Absolument.
Oui, mais quand je vois encore des gens de la communauté fricoter avec nos ennemis,
oui,
et nos ennemis numéro 1, parce qu'il y a plusieurs numéro 1 apparemment, hein, je me pose des questions, mais réellement, sur... quand je vois des trans fricoter avec Fassin, pour ne pas citer, ou encore d'autres psys ou sociologues qui encore font l'invasion de l'inquestion trans dans leurs propres travaux parce qu'ils ne veulent pas se questionner sur leur propre identité hétéro, moi je me pose des questions aussi sur voilà, quelle est ta stratégie. Et quand on me répond que c'est aussi de la stratégie de travailler avec l'ennemi, moi je ne suis pas d'accord. Il faut aussi pouvoir à un moment se positionner par rapport à qui sont tes ennemis et sur qui tu peux te compter. On sait qui sont nos ennemis et on sait on sait justement pas sur qui on peut compter, nous, en tout cas.
Ah, j'oserais. Si j'osais, je ferais le parallèle avec 36 et la Révolution d'Irlande.
Oui,
qui ont négocié et
revoyez, c'est pas 36, c'est...
Si 36 en Espagne et 1907 voilà. en Irlande,
voilà, je veux dire, où...
Si j'osais, mais bon.
Il faut qu'on soit clair. Tant qu'il y aura dans la communauté, je veux dire, une envie de pouvoir, une envie de domination, c'est sûr qu'on aura de grosses difficultés. Parce que il est évident que être trans, pour nous c'est politique, mais pour beaucoup de gens être trans c'est d'abord une question d'ego. Oui, 3 minutes. Tant qu'on superposera, je veux dire, à la question de l'identité personnelle, je veux dire, une question de domination personnelle, une question d'ego, c'est sûr que dans les représentations collectives, politiques, que sont les associations, les structures associatives, on aura ces conflits-là de personnes s'appropriant la parole collective pour simplement un bénéfice personnel. La difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte que sur des revendications, et la dépsychiatrisation serait emblématique de ces revendications, la dépsychiatrisation, arriver à obtenir le résultat. Nous, on avait fait le pari qu'en quelques années, c'était faisable. Il semble qu'il va falloir un peu plus de temps. Nous, on pense qu'il y a peut-être d'autres moyens à mettre en œuvre pour l'obtenir. Il est clair que la mission du GATT est terminée. Je veux dire, et c'est effectivement quelque part une bonne nouvelle, parce que ça donne la possibilité d'autres structures de se créer ou d'animer l'espace public à leur tour.
Ça ne veut pas dire qu'on les avait empêchés de faire quoi que ce soit,
donner la possibilité à d'autres,
D'occuper l'espace que nous, on avait occupé, au moins.
Oui, mais elle était concomitante. Je veux dire, on n'a jamais eu l'exclusivité sur les moindres apps, jamais eu l'exclusivité sur un espace tel que Sainte-Anne. Voilà, je pense que c'est un peu eux-mêmes qui ont compris ça.
Ce que je voulais dire, c'est que au fond, pendant les 3-4 ans où le GATT a été dans l'espace public, je pense pas que
on était,
on a pris la place de personne, on a vraiment pas fait d'envieux dans la communauté. En revanche, je veux dire, le fait que demain, par exemple, je veux dire, imaginons que demain, les docteurs Cordier, Chilan, Galarda organisent une grande conférence publique, je veux dire, à l'Assemblée nationale pour expliquer pourquoi il faut psychiatriser les trans, etc., et que c'est important d'être psychiatrisé, moi je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir en face.
Ben, on verra bien.
Alors, il faut conclure, me dit Vincent. Il faut conclure. Donc c'était la dernière émission de Bistou et Oui. C'était la dernière prise de parole publique du GATT. Les sites internet seront toujours opérationnels, c'est-à-dire que vous aurez cette émission en ligne très rapidement.
Oui, en termes d'archives.
Les archives du GATT et les archives de Bistou et Oui sont toujours disponibles.
L'adresse de la radio http://bistouetwoui.free.fr.
L'adresse du GATT.
http://transencolère.free.fr.
Voilà. Autre chose?
Vous ne nous verrez plus. Au revoir.
J'ai soif.
Salut.
C'est ça.
Ailleurs.
ailleurs. C'est fini.